Des emballages d'aliments et de crèmes pour les mains, des peignes et des pinces à cheveux, des carnets de notes et même une crèche en papier. Tous ces objets sont rassemblés à Panenské Břežany dans une exposition qui présente les découvertes archéologiques d'anciens camps nazis installés en Bohême. Des effets personnels d'anciens détenus, parmi lesquels de nombreux Français et Belges, ont été découverts sur 5 sites fouillés par les archéologues ces 10 dernières années. Magdalena Hrozinková.
Culture sans frontières.
Parmi les localités où se trouvaient des annexes de camps de concentration, de travail et de prisonniers, les chercheurs de l'Institut archéologique de l'Académie des sciences de Prague et leurs collègues d'Ustina de Labem et de Plzeň se sont intéressés à celles de Svatava, Rolava, Leteupisku, Holíšov et Panenské Břežany. Pour la première fois, les résultats de leurs dernières recherches sont présentés dans une exposition commune intitulée « Les camps nazis vus par l'archéologie » ouverte jusqu'au 30 septembre au château de Panenské Břežany à une vingtaine de kilomètres au nord de Prague. D'après l'un des auteurs de l'exposition, l'archéologue Jan Hassel, quelques 38 annexes de camps de concentration se trouvaient sur le territoire tchèque actuel. Par ailleurs, on y comptait un grand nombre de structures d'internement dont disposait pour ainsi dire chaque établissement industriel. Mettant l'accent sur la vie quotidienne en temps de guerre, l'exposition couvre d'ailleurs 1% seulement de ces structure. On écoute Jan Hassel.
Nous exposons les objets qui nous semblent les plus intéressants. Les 5 sites que nous présentons sont relativement hétérogènes. Le premier d'entre eux est l'annexe du camp de concentration de Flossenbürg, qui se trouvait dans la commune de Svatava, dans la région de Sokolov, en Bohême de l'Ouest. Il s'agissait d'un camp de concentration pour femmes où étaient internées, pour raisons raciales ou politiques, de nombreux prisonnières de France. Elles étaient utilisées comme main-d'œuvre dans l'armement. Cette localité est intéressante parce que des historiens s'y sont intéressés dans les années 60 à 80. Ils ont alors rassemblé de nombreux objets que nous sommes aujourd'hui en mesure de présenter. Surtout, ils sont entrés en contact avec les survivants de ce camp de concentration. Nous disposons d'une quantité importante de leurs souvenirs, notamment un croquis du plan du camp. Notre travail a consisté à recréer en quelque sorte ce lieu. Étant donné qu'une épidémie de typhus s'était déclarée dans le camp de Svatava à la fin de la guerre, les autorités militaires américaines ont pris la décision de le brûler en mai 1945. Ainsi, la mémoire historique de ce lieu a été entièrement effacée. À l'heure actuelle, on n'y trouve qu'un petit monument commémoratif et ce qui reste d'un abri entier aérien est actuellement occupé par l'aire de jeu de l'école maternelle locale.
C'est en 1943 qu'un camp a été établi dans le village de Svatava. L'ancienne filature de laine peignée dont les propriétaires étaient juifs a alors été transformée en usine de fabrication de bobines, d'interrupteurs et autres matériels destinés aux avions et aux instruments de bord. Les auteurs de l'exposition rappellent que les femmes détenues dans les camps de concentration principaux en Allemagne se portaient volontaires pour travailler dans ce genre d'usine. En effet, être employées en Bohême leur permettait d'éviter l'extermination systématique et d'obtenir un supplément de ration alimentaire. À Svatava, les prés sont bons, les oiseaux chantent et le soleil brille divinement, alors que Ravensbrück, c'est un paysage effroyable, rien que des marécages et de l'eau fétide, des lacs en nombre, un genre de relent doucereux flottait dans l'air en permanence, comme se souvient l'une des détenues auxquelles appartenaient plusieurs des objets exposés, un carnet de dessin, un petit chien en tissu ou encore une crèche en papier datée de Noël 1944. Jan Hassel.
Cette crèche est fidèle à l'iconographie établie. Au centre, Jésus dans une mangeoire, et puis Marie et Joseph. Mais prêtez attention au personnage venu s'incliner devant Jésus. Il porte différents costumes traditionnels français en fonction des régions d'origine des prisonnières. On y voit même une prisonnière portant des sabots et l'habituel uniforme rayé. Et au lieu d'une comète ou d'une étoile, c'est une étoile de David ailé qui flotte au-dessus de cette crèche de guerre. Une étoile de David ailé est marquée d'un mot unique, Pax. On trouve également divers petits albums fabriqués par les détenus et dans lesquels elles s'écrivaient des messages. On peut par exemple y trouver une page illustrée des costumes alsaciens et lorrains où figure un extrait d'un chant patriotique français faisant référence à l'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Empire allemand. Les paroles disent « Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais ». Dans ces petits carnets, on trouve même les adresses des soldats de l'armée américaine qui ont libéré ces femmes.
Dans la même région, à une trentaine de kilomètres seulement en direction de la frontière allemande, sur les crêtes des monts métallifères, se trouvait un autre camp appelé Rolava. Les auteurs de l'exposition ont développé une application qui fonctionne comme un sentier d'interprétation dans cet ancien complexe industriel, aujourd'hui très prisé pour les tournages de films. Jan Hassel explique que ce n'était pas un camp de concentration qui se trouvait sur ces lieux, mais un camp de prisonniers administré par la Wehrmacht allemande.
Les camps des prisonniers étaient établis à proximité de bâtiments stratégiques ou encore d'usines. Dans le cas de celui de Rolava, il s'agissait d'une usine minière et d'une usine de traitement du minerai d'étain. Jusqu'à 500 prisonniers soviétiques et 150 prisonniers français et belges ont travaillé ici. Nous avons également pu distinguer ces communautés sur le plan archéologique, car dans le cadre d'une étude de surface, nous sommes parvenus à différencier plusieurs zones de déchets. Sur la base de nos découvertes, nous avons identifié les déchets pauvres des détenus soviétiques, que la Wehrmacht traitait en général moins bien. Ils n'étaient pas protégés par la Convention de Genève et ils ne bénéficiaient donc pas des colis de la Croix-Rouge. Par rapport à eux, la situation des prisonniers occidentaux, et notamment des Français, était un peu meilleure. En effet, la nourriture qu'ils recevaient de leur geôlier était meilleure, comme l'a prouvé notamment la découverte de restes d'os de bœuf de qualité. De plus, eux bénéficiaient des colis de la Croix-Rouge. Par ailleurs, nos découvertes indiquent que les familles françaises envoyaient à leurs prisonniers du lait en poudre et de la farine de malt, mais également de l'alcool.
Parmi les objets conservés du camp de Rolava, des bouteilles et emballages de produits cosmétiques retiennent particulièrement l'attention.
Nous présentons deux damjans en verre et l'une des nombreuses bouteilles de vin que nous avons trouvées. Par ailleurs, nous pouvons affirmer que les prisonniers troquaient probablement des produits avec les habitants, puisque nous avons également trouvé un fragment de bouteille d'un produit typique pour la région de Karlovy Vary, à savoir la Becherovka. Par ailleurs, nous exposons un ensemble de flacons de pharmacie et d'emballages de produits cosmétiques d'origine allemande et française. Ces produits, à savoir du dentifrice ou de la crème à raser française, ne sont en aucun cas synonymes de luxe. Les crèmes pour les mains, par exemple, étaient absolument indispensables puisque le minerai d'étain avec lequel travaillaient les détenus était très irritant. Nous exposons également les flacons de pharmacie que nous avons trouvés. Les emballages de médicaments pour les troubles digestifs indiquent que la nourriture des camps était loin d'être idéale.
Non loin de la ville de Holichov, en Bohême occidentale, travaillaient des prisonniers françaises, mais aussi polonaises, russes et hongroises, ainsi que des prisonniers de guerre français, italiens et serbes. C'est l'équipe d'archéologues de l'université de Bohême occidentale qui étudie les restes du complexe où ils étaient détenus. Jan Hassel précise qu'il s'agissait de la plus grande colonie de camps nazis en Bohême.
Deux usines de munitions ont été construites à proximité de cette petite ville de Bohême occidentale peu après le début de l'occupation nazie. Pour assurer leur fonctionnement et leur fournir de la main-d'œuvre, ce sont pas moins de 7 camps différents qui ont vu le jour. Il s'agissait avant tout d'une annexe de camps de concentration pour femmes et hommes, de 2 camps de prisonniers, d'un camp de travail allemand et également d'un camp de travail forcé pour les jeunes filles et femmes tchèques. L'ensemble couvrait une surface de 7 hectares. Celková plocha těch táborů dosáhla 7 hektarů.
L'exposition « Les camps nazis » vus par l'archéologie accorde bien évidemment une place aux objets archéologiques provenant du camp de concentration de Rome de l'été à proximité de Písek. Les fouilles réalisées dans ce camp de concentration unique au sud de la Bohême, où les conditions d'hygiène désastreuses ont provoqué la mort de centaines de Roms de tous âges, ont été suivies de près par les médias entre 2016 et 2019. En effet, le destin des Roms passés par ce camp n'a commencé à être évoqué qu'après la chute du régime communiste, qui avait fait construire une porcherie sur les sites. Les archéologues y ont trouvé non seulement des tombes individuelles, mais également une quantité importante d'effets personnels et de bijoux, qui sont donc actuellement présentés au public pour la première fois, Jan Hassel.
Les objets les plus intéressants sont ceux qui ont été apportés au camp par des gens comme vous et moi. Il s'agit d'objets courants, de vaisselle émaillée pour enfants, de tasses de tous les jours. C'est tout ce qui reste des familles de Roms tchèques dont la plupart n'ont pas survécu à l'Holocauste. Et ceux qui y sont survécus n'ont rien retrouvé de leurs biens. En quelque sorte, ces objets nous offrent un regard ethnographique sur cette problématique.
Parmi les effets personnels des Roms emprisonnés à l'été, les archéologues ont retrouvé des peignes, des pipes, des couteaux de poche et des pinces à cheveux, mais également des pions du jeu Člověče nezlobce, équivalent des petits chevaux.
On peut dire que même dans les situations les plus extrêmes, par exemple lorsque les gens étaient coincés derrière des barbelés, ils avaient envie de jouer et étaient créatifs. Nous exposerons non seulement ces pions provenant du camp de Leti, mais également des pièces de dominos en os qui appartenaient aux prisonniers français du camp de Rolava. Dans ce camp, nous avons aussi des objets faits main, par exemple un presse-papier en étain moulé en forme de tête de chien.
L'exposition se termine par la présentation d'un camp à l'opposé de l'immense complexe de Holíšov. Il s'agissait en effet de l'un des plus petits camps du protectorat de Bohême-Moravie.
Nous voulons présenter la diversité inhabituelle et quelque peu perverse du phénomène des camps nazis. L'un des camps les plus spéciaux se trouvait justement ici, sur le site même de l'exposition à Panenské Břežany, non loin de Prague. Historiquement, deux châteaux se trouvaient ici. Avant-guerre, ils étaient la propriété de familles de commerçants juifs de Prague. Ils leur ont été confisqués. Peu après le début de l'occupation, le château dit « supérieur » servait alors au général SS Karl Hermann Frank, tandis que le château inférieur était prévu pour le gouverneur de Bohême-Moravie, à savoir tout d'abord Konstantin von Neurath, puis Reinhard Heydrich. D'ailleurs, c'est de ce château que venait Heydrich le 27 mai 1942, lorsqu'il a fait l'objet de l'attentat qui a provoqué sa mort. Sa veuve, Lina, et leurs enfants ont ensuite été autorisés à rester dans ce château. Pour assurer différents travaux physiques au château, Lina Heydrich avait à sa disposition un groupe de prisonniers juifs qui ont vécu un certain temps au château. Une fois les travaux terminés, ils ont été envoyés en camp de concentration. Ensuite, c'est un groupe de travailleurs composé de 15 prisonniers pour raisons religieuses qui lui ont été envoyés. C'était des témoins de Jéhovah. Et Lina Heydrich avait confiance en eux car elle savait que leur religion leur interdisait la violence. Ces hommes étaient chargés de différentes tâches liées au château. Leurs conditions de travail étaient relativement bonnes. Ils étaient aidés par les habitants et ils ont survécu à la guerre. On pourrait penser que 15 hommes, c'est une très petite communauté. Pourtant, ce n'était pas le plus petit camp sur le territoire. Le plus petit, c'était le camp de prisonniers du château de Jeseří, en Bohême du Nord. Il comptait moins de 10 prisonniers. Pour en revenir à Lina Heydrich, elle a vécu à Panenské Břežany jusqu'à la fin de la guerre. Elle y a cependant connu une deuxième tragédie familiale. Non seulement son mari est mort, mais un an plus tard, c'est son fils Klaus qui est décédé dans un accident de la route. Malgré cela, elle est restée ici. Et dans le livre qu'elle a écrit dans les années 70, elle évoque même les années passées à Panenské Břežany comme une période positive de sa vie.
Na ten pobyt v Břežanech jako tedy na podstatě pozitivní část jeho života. Les objets du quotidien témoignent du passé trouble autant que les documents historiques ou les monuments commémoratifs, estiment les archéologues. Ils ont décidé de dédier l'exposition aux millions de victimes des régimes totalitaires et à ceux qui souffrent ou souffriront encore dans des camps partout où les droits de l'homme sont aujourd'hui réprimés. Jan Hassel.
Récemment, nos collègues de l'Université Charles de Prague ont transformé notre base archéologique de Mielnik en hébergement provisoire pour les réfugiés d'Ukraine. Il a fallu faire l'inventaire de la vaisselle et de tout ce qui s'y trouvait et compléter avec des objets apportés par nos collègues de chez eux. À nouveau, les objets du quotidien sont entrés dans l'histoire. En raison des événements actuels en Ukraine, il nous a fallu actualiser le dernier panneau de l'exposition. Nous y indiquons que les clichés de Google Earth permettent aujourd'hui de localiser les camps de travail et autres structures de ce genre sur les territoires où la liberté ne règne pas. C'est quelque chose que chacun de nous peut faire.
L'exposition Les camps nazis vus par l'archéologie est ouverte jusqu'au 30 septembre 2022 au mémorial de l'oppression nationale et de la résistance à Panenské Břežany.